présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène Junier Jean-Pierre. Attends. Demande aux passants. Avant de demander aux passants, j'essaie de trouver moi-même. J'ai oublié de vous dire, c'est qu'en sortant de la gare, un vent terrible s'est abattu sur Paris. Ça n'a pas duré, ça a duré à peine une minute. Le ciel sombre s'est éclairci un peu, il ne pleut pas. Devant la gare, je regarde les arrêts de car. Je ne vois pas de 84 ou de 94. Je longe un peu la rue transversale qui mène sur les quais. Regarde les arrêts, rien. Vais jusqu'au quai et cherche pour puis retourne. Les rues se remplissent de gens pressés qui doivent aller à leur travail. Seules les personnes âgées qui promènent leurs chiens marchent calmement. Retourne vers les quais. Traverse côté quai. Marche un moment et décide de demander si je peux trouver où je peux trouver ces fameux cars. Je n'ose pas interroger les passants qui sont pressés, ni les femmes, car ils risqueraient de penser que je veux les draguer, ni les clodos, car j'aurais beaucoup trop honte de leur demander quelque chose sans leur donner une pièce. Je n'ai pas de monnaie, juste un billet de 200 francs et de 50, plus de chèques. Après avoir hésité, je décide d'interpeller un monsieur qui promène son petit toutou. Il n'est pas pressé, tiens, doit être de Paris. Pas très grand, cheveux blancs, tête ronde, un peu fort, chemise blanche et pantalon marine. Pardon monsieur, pouvez-vous me dire où je peux trouver les arrêts de bus 84 ou 94? Vous êtes à pied? Il faut prendre le métro. Il est en grève. Ah, alors vous prenez le 20 jusqu'à la gare Saint-Lazare et là vous prendrez le 84. C'est pour aller où? Boulevard Velasquez, Parc Monceau. Connais pas, mais ça doit être loin. Bon, eh bien merci monsieur. Le 20, je le trouve où? Allez du côté de la Bastille, vous verrez. Bien monsieur, merci. Et j'y vais, sûr de moi. S'il m'est dit que c'est loin, cela ne me fait pas peur. C'est toujours loin pour un Parisien. Je sais où se trouve la place de la Bastille, j'y vais. Il y a plus en plus de monde dans les rues et il fait de plus en plus chaud. Enfin, je trouve l'arrêt du numéro 20. Je demande si c'est la bonne direction. Non, je dois traverser. J'attends le car. Il y a de plus en plus de monde qui attend le car. Je me dis que c'est à cause de la grève du métro. Les gens me semblent excités, regardent plusieurs fois les horaires et leur montre. Après un long moment, la foule est très intense. Le car arrive enfin, mais déjà bondé. Les gens hésitent et certains rentrent. Je vois que c'est impossible d'entrer dans le car. Une fois qu'il est parti, il reste autant de personnes qui attendent. Je me dis que j'ai le temps, tant pis, je vais y aller à pied. Je me demande quelle direction se trouve la gare Saint-Lazare. Vous y allez à pied? Mais c'est loin! Au moins 2 heures ou plus! C'est tout droit, tout droit! Merci madame, et je me mets en route. Je regarde ma montre, il est 9h30, et j'ai le temps. Et puis 2 heures de marche, ça ne fait pas peur. J'en ai fait d'autres, même en montagne. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que je n'aurais pas pris un taxi? Eh bien, il y en avait des taxis, mais pour les prendre, il y avait aussi la foule. Et les taxis qui circulaient, ils étaient tous pleins. Donc, je suis tout droit le boulevard, maison quelconque, magasin aussi. C'est comme si j'étais à Lyon. Chaque fois que je passe devant un arrêt de bus, je regarde s'il y a bien le vin. Car je peux, pour ne pas me tromper, je décide c'est de suivre le parcours du car. bonne idée, hein. Tout va bien. Il ne fait pas chaud. J'ai amené quelques gaussettes que je grignote tout en marchant. Je croise des gens pressés, au visage triste, habillés banal, rien de beau. Tout d'un coup, j'arrive à un carrefour. Un de ces carrefours où le tout droit, on ne sait plus où il est. Il y a au carrefour une mini place jardin, rikiki et triste, avec un coin manège. Beaucoup de monde et de circulation au carrefour. J'essaie de voir si je ne voyais pas, par hasard, mon vin, pour voir dans quelle direction il va. Non, rien. Et je ne me vois pas traverser et aller au hasard. C'est tellement ennuyeux. Alors je demande à une dame, où faut-il aller pour aller à la gare Saint-Lazare? Vous y allez à pied? Mais c'est loin. Vous prenez par là, sur le boulevard Haussmann, et jusqu'à l'avenue de l'Opéra. Après, vous demanderez. Vous allez jusqu'où et puis vous allez jusqu'où? Parc Monceau, avenue Velasquez. Connais pas. Vous demanderez. Merci, madame. Je traverse un peu inquiet. Marche. Ne vois pas d'arrêt de bus. Pas de taxi. Où est passé mon vin? Enfin, je trouve ce fameux boulevard Haussmann. Je suis dessus. Je le croyais plus luxueux. Notre cour Lafayette à Lyon est beaucoup plus haut que lui. Très inquiet. Pas d'arrêt de vin. Continue ma route. Vois un panneau, avenue de l'Opéra. Passe devant l'hôtel des ambassadeurs. Pas mal. Galerie Lafayette, femme, puis homme. Foule, de plus en plus de foule. Je suis de plus en plus inquiet. Pas de vin sur les arrêts de Bucard. Je regrette l'année dernière où c'était plus simple pour aller au Faubourg Saint-Jacques et puis je passais devant le lycée Henri IV. Je me dis que je me suis peut-être trompé. Tant pis. J'arriverai pas à l'Assemblée et retournerai à la gare de Lyon. Mais mon train est à 22h, j'ai encore le temps. Je vois vers le cours Lafayette une borne panneau qui indique Gare du Nord. Est-ce que la Gare du Nord, c'est la Gare Saint-Lazare? Pas je décide d'y aller. Prends une rue transversale au boulevard Haussmann. Des arrêts de bus, mais pas de vin. Tant pis, beaucoup de monde et de gens énervés. Je continue ma route. J'entends que l'on dit que les cars se mettent en grève aussi. C'est la panique. Queue énorme devant les arrêts de taxi. J'arrive devant la gare du Nord. Je l'aurais trouvé fort belle si je n'avais pas été inquiet et que je n'avais pas un peu de cafard. Il y a une queue énorme qui fait toute la longueur de la gare puis ses deux côtés pour prendre les taxis. Je cherche l'arrêt du vin. Il n'y en a pas. Je me dis que j'ai dû me perdre. Tant pis, j'arrête. Et retourne gare de Lyon. Cela m'énerve. Car je vais être obligé d'attendre 22h pour prendre mon train. Décide de retourner boulevard Haussmann. Mais je ne sais plus comment faire pour le retrouver. Enfin, j'y arrive. Retourne vers les galeries Lafayette Homme. Là, je tombe sur un panneau. Gare Saint-Lazare ou Montparnasse. Je ne sais plus. Je ne me souviens même plus du nom de la gare où je dois aller. Comme un imbécile, j'ai oublié de marquer son nom. Alors, je décide d'aller à la direction de cette gare par une route transversale au boulevard Haussmann. Je commence à être fatigué, à en avoir marre. On me dit que c'est la dernière fois que je vais à Paris. Ou plutôt à cette réunion. D'ailleurs, je me demande ce que je fais ici. Gagne ma journée, de l'argent, de la fatigue, pour rien. J'aurais tout aussi bien à Lyon. Je trouve cette gare qui ressemble à l'autre. Il y a des arrêts de car où une foule énorme attend. Trouve enfin l'arrêt du vin devant la gare. Mais, énorme foule. Il y a un vin qui est en attente de départ. La foule attend, un contrôleur. Il me montre ma lettre pour ma destination. Il me dit, le métro n'est pas loin, il y a 2 minutes à droite. Je lui dis qu'il est en grève. Je cherche le 84 et le 94. Il ne répond pas. Il est assailli par la foule. Je trouve l'arrêt du 84. Il y a foule. Et je comprends qu'il ne viendra pas. Alors je retrousse chemin. Et je décide de demander pour aller avenue Velasquez à pied. Je vois une voiture de police à l'arrêt avec 2 policiers devant. Je demande à un policier, tout jeune, tout mignon, comment il faut faire pour aller à cette avenue Velasquez dans le 8e. Il me dit gentiment de prendre le car. Je lui dis gentiment qu'ils sont en grève. Il me dit qu'il y en a encore qui en circulation et que s'il n'y avait qu'à en ailer un et comme un taxi et qui s'arrêterait. Tu dois le faire. Il me dit que le 8e est enchevêtré avec le 9e, que je devrais traverser l'autre côté du boulevard Haussmann vers le 8e. L'autre côté, etc. Je laisse et remercie ce gentil, mignon petit policier et m'en retourne vers ce fameux boulevard Haussmann. Les cars me dépassent, mais n'osent pas me les héler pour les faire arrêter. Merci du même gentil petit agent, le seul visage agréable que j'ai vu de cette aventure. Enfin, je me dis que j'essaye encore une fois et après j'arrête. Je commence à se faire tard. Je suis crevé, j'ai chaud et j'en ai marre de cette connerie. Arrivé pas très loin du boulevard Haussmann, je demande à un vieux monsieur l'avenue Velasquez. Il ne connaît pas. Alors je lui parle du parc Monceau. Il me dit, prenez la rue là, vous trouverez à un tournant une église qui fait l'angle. C'est l'église des Capucins ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Vous l'allongerez et au fond de la rue, il y a une avenue. Lisez où se trouve le parc Monceau. Je remercie et j'y vais. Bien décidé à trouver ce parc et cette avenue. Je regarde ma montre, il est encore tôt, 12h30. Je trouve une église qui doit être celle qu'il m'a dit. Belle église, majestueuse, bien proportionnée. Mais la pauvre, elle est là toute seule, en face de l'église d'un grand carrefour. Toutes les voitures doivent se cabosser sur sa face. Heureusement qu'il y a un mini-jardin en face de l'angle, qui fait l'angle devant elle. Je demande à un vieux monsieur, on me dit de longer l'église et de suivre tout droit. Merci monsieur. Je longe l'église en lui faisant face, traverse. Et je suis sur le boulevard, plus calme et plus bourgeois que les autres du vieux Paris chic. Au bout, il y a une avenue boisée, mais pas de parc ou d'avenue Velasquez. Regarde et vois que mon boulevard s'est transformé en avenue Velasquez. Mais le numéro 5, je retourne en arrière. En guise d'avenue, c'est très court. Tombe sur un portail, Jean parle de la tête d'or en plus petit. Il y a comme une mini-rue pavée avec trottoir et des deux côtés des petites maisons, genre aux têtes particulières, comme les maisons du boulevard du Belge. C'est tout petit et au fond de cette mini-rue, il y a le même portail qui donne sur le parc Monceau. Je comprends que cette mini-rue qu'on appellerait une impasse, cette petite chose rikiki, les Parisiens, pour faire chic, appellent ça avenue. Ça ne m'étonne pas d'eux. Et puis ça ne m'étonne pas que personne ne sache où elle était cette avenue. Parce que c'est une fausse avenue. C'est pour perdre les étrangers. On me dit que ce devait être une avenue avant les travaux haussmanniens. Et qu'il en a laissé comme Thibaut Rikiki, mais qu'il en a gardé son nom. Je rentre dans cette avenue, Rikiki, l'avenue Velasquez. qui est une impasse petite, qui semble en dehors de Paris, du siècle. C'est beau, charmant, très vieille France. Adieu la foule, le bruit, le lait. Les façades des maisons sont délicieuses et claires. Vois enfin où se trouve le numéro 5. Il est 12h50. Je rentre dans le parc, j'ai le temps. Le parc n'est pas très grand et charmant, à l'ancienne, avec beaucoup d'arbres touffus. Pas de choses horribles pour faire jouer les enfants. Un parc comme je les aime, que l'on a laissé vieillir et qui se laisse vieillir sans être vieux et triste. Il y a beaucoup de monde, des hommes, des femmes, gens cadres et secrétaires, cravates, costumes ou chemises avec cravate. Je trouve un banc. Allons, ouf, je suis crevé. Bois une canette d'orangina. Mange une barre de chocolat, je n'ai plus faim. J'ai chaud et je me sens fatigué. Regarde les gens passer. C'est étrange comme les hommes d'un certain âge sont toujours avec des jeunes filles plus grandes qu'eux, habillées avec des jupes très courtes. On peut même dire que ce ne sont pas des jupes, elles se sont mises des foulards autour de la taille. Pourtant, elles n'ont pas l'air des putes. Elles sont bien sages, parlent travail. Ces messieurs doivent être les patrons ou directeurs. Ils sont grisonnants, le ventre bien rebondi, etc. Quant aux jeunes cadres, eux, ils marchent entre eux. Les cadres d'un certain âge, ceux qui ont commencé leur carrière dans les années 60-50, marche détendue, les mains dans les poches, sur deux, comme les cadres d'avant la crise. Et les jeunes qui n'ont pas de belles jeunes filles avec eux, marchent tendus, stressés, comme les cadres de la crise. Les vieux, qu'ils soient accompagnés ou seuls, marchent de la même façon. Il n'y a rien à manger, l'heure arrive. Un jeune homme s'assoit sur un banc à côté d'une jeune fille qui mange une salade dans un récipient en plastique. Lui est jeune, bien de sa personne, chemise blanche à rayures rouges, cravate marine, pantalon marine. Il observe à la dérobée la jeune fille qui mange. Il ne fait pas attention à lui. C'est sûrement un cadre très jeune. Pourtant, il est mignon celui-là. Il se lève. Moi, je me lève fatigué pour aller à la réunion et entre dans la maison. Grand escalier de marbre, recouvert de tapis rouges, boiseries, colonnes, etc. C'est du grand luxe de goût. Au rez-de-chaussée, je vais pointer et voter, puis je vais au WC. Tout aussi luxueux que le reste. Puis je monte à l'étage pour aller à la salle de réunion. Grande pièce, baies vitrées, boiseries et colonnes, etc. Les plafonds sont très hauts. Une porte ouvre à deux battants pour une autre pièce où se trouve la suite des chaises et une estrade avec une table. Je m'avance et vais m'asseoir à une chaise dont l'assistante Jean-Marie Drault discute. Je lui dis bonjour et retourne dans la grande salle, m'asseoir dans les premiers rangs. Monsieur de Villiers vient. Il dit bonjour et dit aux gens de se rapprocher. Je me retrouve au premier rang, près de l'estrade. Monsieur de Villiers, Jean-Marie Drault sont montés sur l'estrade et se sont assis. L'Assemblée Générale Extraordinaire a commencé. Puis, à 14h45, l'Assemblée Générale a commencé. Je ne vous en dirai rien, c'est privé. J'ai décidé de partir avant la fin, vers les 19h, de peur de rater mon train. J'ai dit au revoir à M. de Villiers en m'excusant et j'ai repris le chemin du retour. Je suis tout de suite reconnu. Arrivé après l'église, j'ai pris le boulevard Haussmann. Un jeune maghrébin demandait pour aller à la gare de Lyon à un passant. Le passant lui a dit que c'était loin et qu'il fallait plutôt prendre les quais de Seine. Le jeune est parti avec moi. J'ai reconnu la galerie Lafayette, je lui ai dit pas la peine de prendre les quais de Seine, qu'il fallait tout simplement suivre tout droit. Le jeune m'a suivi. Et c'était gênant pour lui d'avoir à côté de lui un vieux comme moi. Il est parti en courant en me disant au revoir. Moi j'ai fait mon parcours, Avenue Velasquez, Parc Monceau, Église Capucin, Boulevard Haussmann, Galerie Lafayette, Saint-Denis, sous le parcours du Vin, Avenue Transversale, Arc de Triomphe, les deux petits arcs de Triomphe, Saint-Martin, Bastille, Boulevard Lyon et Gare Lyon. Ouf, 21h30, 1h30 de trajet sans faute. Je pouvais souffler, pas vraiment satisfait de ma journée, mais mieux qu'au début. Et je me souriais de plus en plus que j'avais pensé de ne plus revenir à Paris. Parce que je me disais que si je n'étais pas venu, j'aurais manqué d'avoir, j'aurais pas vu un si joli parc et l'avenue Velasquez. J'avais pas mangé de toute la journée et j'avais pas faim. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Vers la gare Lyon, comme il était 21h30, avant de prendre mon train, je regardais les menus des restaurants. Mais à chaque fois, cela ne me disait rien. Je n'avais pas faim. Je me suis dit une glace alors, même pas. Alors, je suis rentré à la gare. J'étais triste. J'avais le temps et je voulais encore respirer Paris. Je bu une Orangina, j'étais crevé. Je n'avais pas faim et là j'avais la tête vide. J'avais envie de m'asseoir, j'allais à la salle d'attente, bourré, mais j'avais une place. Il y avait dans la salle d'attente une femme de taille moyenne, maigre, mais squelettique, des cheveux teints roux, mal peignés, le teint marron, plein de tics nerveux. Elle était habillée proprement, mais malgré tout, on avait l'impression qu'elle était une clocharde propre. Sa maigreur, ses tics, me la rendait émouvante. J'avais pitié d'elle, pauvre femme qui semblait souffrir seule au milieu de cette foule anonyme. Au bout d'un moment, je suis sorti de la salle. Et 5 minutes plus tard, le TGV est arrivé 30 minutes en avance. Je suis installé à une place cette fois. J'ai eu un homme à côté de moi dans les 55 ans. J'étais fatigué et j'avais hâte de rentrer. Le train est parti alors à la nuit tombante. l'intérieur du TGV, exceptionnellement, il s'arrêterait à la gare de T pour prendre deux voyageurs oubliés. Lorsque le contrôleur est venu, un homme a protesté. Comment ? On faisait un arrêt qui n'était pas prévu et qu'on allait arriver à Lyon avec 3 minutes de retard. C'est un scandale, ça. Le trajet me parut long. Derrière moi, un homme dormait et ronflait. Devant moi, en face, un charmant jeune homme dans les 25 ans, grand, mince et très fin, agréable à voir, habillé en jean, qui avait de longues jambes bien faites, minces, etc. Enfin, nous arrivâmes, après un petit trajet, un petit arrêt pour prendre les deux voyageurs égarés à la gare de... Nous sommes arrivés à la gare de la Pardieu. Je sens que le jeune homme me regarde. Et nous nous regardons jusqu'à la descente. Quai vide, nuit, temps chaud. Sort de la gare, quelques passants. Passe par le rôle du centre commercial Pardieu. Mais le côté sortie Galerie Lafayette est fermé. Zut, j'en ai tout de même pas resté toute la nuit dans le centre commercial. Les employés de nettoyage me disent de passer par le deuxième niveau que c'est ouvert. Entre dans mon immeuble, il est 18h30. J'ouvre ma boîte aux lettres. Publicité, mon télérama, tiens, une lettre, la société des auteurs dont je viens de passer la journée, tiens, qu'est-ce qu'elle me veut? Je vais prendre l'ascenseur. Et rentre chez moi. Pouf. Je me déshabille. Range mes affaires. Cartable, papier, etc. Ensuite, je vais à la salle de bain pour prendre une douche. Après avoir pris ma douche, je sors de la salle de bain et vais à la cuisine. Pour grignoter des gâteaux, du chocolat noir et surtout boire de l'eau. Parce que j'ai très soif. Puis, avant d'aller me coucher, intrigué, je vais à mon bureau lire la lettre que j'ai reçue et que j'ai posée sur mon bureau. Je la prends et l'ouvre. Lettre est pour m'annoncer que je suis sociétaire, plus haut niveau et catégorie 1, plus haut niveau de ma catégorie. Je peux même me faire élire et faire partie du bureau et même être président. Oui, mais non. Je suis très ému. La vie m'a donné une belle revanche et un beau cadeau. Moi, le nul, le paria, celui à qui l'on disait lorsqu'on était enfant que j'étais un daltonien, un fou, un spécial, celui qui a été violé, celui à qui on n'a pas voulu qu'il poursuive ses études, qui n'a aucun diplôme, qui a arrêté sa scolarité à 14 ans, etc. Moi, l'humilié, le laid, je suis sociétaire et mon émission est de la catégorie 1, sociétaire d'une société culturelle où les plus grands y sont. Je n'aurais jamais cru ça qu'un jour. J'ai envie de le dire à quelqu'un, mais à qui ? J'ai personne. Une personne à qui j'ai dit que je faisais partie de cette société m'a dit que n'importe qui, n'importe quel crétin pouvait y être, y rentrer. Imbécile, jaloux. Si tu voyais le nom des sociétaires, je suis heureux. Moi, sociétaire, et reconnu par, j'allais dire, mes pères, les Drault, les Dumayet, les Julien Green, etc., etc. Mais j'ai aussi une grande tristesse. Je me dis que c'est trop tard, tout ça. Je suis trop vieux et que je n'aurai pas le temps d'en profiter. De nombreuses années avant, j'aurais eu une autre vie. Et puis, je pense à mes parents, à ma mère, qui n'est plus et qui aurait été sûrement heureuse et fière. Mon père est trop vieux et je ne suis pas sûr qu'il comprendrait. Je pense aussi à la personne que j'ai aimée pour la première fois. Peut-être serait-elle heureuse de savoir qu'elle n'a pas aimé un nul, un abruti. Je m'aperçois avec tristesse que je resterai seul avec ma joie. Personne ne le saura. Parce que je n'ai personne. J'ai personne à dire mes peines, mes joies. Si je suis arrivé à ce niveau, c'est grâce à un très dur labeur, solitaire et de grandes privations. Je ne dois rien à personne. Personne ne peut vraiment savoir ce que ça représente pour moi. Je suis reconnu et estimé par ceux que j'estime le plus. Merci. Je pose ma lettre, bien en évidence, sur le bureau. Je la relirai demain. On ne sait jamais. Je suis peut-être trompé. J'ai mal compris. Et même couché. Drôle de journée. Et je me couche sociétaire. À bientôt. Paris, 1999. C'était Paris, 1999, 3-5. Enregistrements de mes anciennes émissions. Nous sommes le 26 juillet 2000 à 19h30. Je me sens triste et vide. Très triste et très vidé. Seul. J'ai l'impression d'avoir perdu mes amis. De revenir dans le présent alors que j'ai fait tout un voyage dans mon passé. D'avoir fait revivre des gens que j'aimais. Et je me trouve maintenant affreusement seul et vidé. J'ai qu'une seule envie, c'est d'être le plus possible, écrire une autre histoire pour retourner vers les gens que j'aime. Je dis les gens que j'aime, je ne dis pas les gens qui m'aiment. Ça, c'est une autre affaire. Je viens d'enregistrer, finir d'enregistrer, film intérieur, Violence et Crépuscule, Imami, L'élu, Le plaisir, Entre la lune et moi, c'est-à-dire le lac de Montrion, Au-delà du commun, Les illusionnistes, La guerre, je ne me souviens plus le titre, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Des chaos et des larmes. Et puis, Paris, 1999, 5, 3, l'écrivain aussi. Deux autres petites histoires. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre en numérique tout ce que j'ai fait. Ça me dure, ça va me prendre encore des mois et des mois de travail. Ça me permettra de réécouter ce que j'ai enregistré. Dans l'ensemble, je suis moyennement satisfait de ce que j'ai fait. L'élu, je le trouve bien. Le plaisir aussi, ça peut aller. À part les scènes de bal, que je trouve que j'aurais dû choisir d'autres scènes. Je suis déçu par l'au-delà du commun. Parce que j'ai pas pu le faire vraiment comme il fallait. Les illusionnistes m'ont aussi un peu déçu. Parce que les illusionnistes, malheureusement, c'était quelque chose que j'avais écrite, mais j'avais écrit pas pour une émission de radio. Donc j'aurais dû, avant d'en faire une émission de radio, s'y adapter pour la radio. Ça, j'y ai pas fait. Alors ça se voit un peu. Autrement, dans l'ensemble, ça semble aller. Et puis ça m'a permis de faire revivre tous ces gens que j'ai connus, que j'ai plus ou moins aimés, des tas de souvenirs. Bonsoir. Dire aussi une chose, c'est que toutes ces émissions sont des émissions qui sont jamais passées à la radio, même si c'était de vieilles histoires, mais qui n'ont jamais été diffusées à la radio. Et l'élu était ma toute dernière histoire que j'ai écrite. Mais les autres étaient peut-être des histoires écrites depuis longtemps, mais qui ne sont jamais passées à la radio. La semaine prochaine, vous aurez une grande histoire, enfin un grand feuilleton qui commencera à partir de la semaine prochaine. Bonsoir. nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.